franceinter.fr.
Voici le journal de Laurence Thomas, bonsoir.
Bonsoir à tous. Ancien militaire putschiste, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est à son tour victime d'un coup d'État. L'armée a pris le pouvoir après une journée d'émeutes contre le régime. Le gouvernement décide de résilier son partenariat avec Ecomove. Il se réserve la possibilité d'attaquer juridiquement ce contrat pour éviter de payer de lourdes pénalités. Tension à Jérusalem où les policiers ont tué un Palestinien et Israël a fermé l'esplanade des mosquées avant de la rouvrir. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à Bercy pour le Master 1000 de tennis et la rencontre entre Gaël, mon fils, et Novak Djokovic.
France Inter.
Et tout de suite, direction le Burkina Faso, où tout est allé très vite aujourd'hui. Ce soir, l'armée a pris le pouvoir après une journée d'émeutes contre le régime de Blaise Compaoré. Le feu couvait depuis mardi, où des centaines de milliers de Burkinabés sont descendus dans la rue pour dénoncer le projet de révision de la Constitution qui aurait permis à Compaoré, au pouvoir depuis 1987, de se présenter une nouvelle fois en 2015. Ce matin, l'Assemblée nationale est incendiée et la télévision publique prise d'assaut par les manifestants. Alors, dans un souci d'apaisement, le gouvernement annule le projet de révision constitutionnelle. Mais en début de soirée, l'armée annonce la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée, instaure un couvre-feu sur l'ensemble du territoire de 19h à 6h. Le chef de l'armée annonce la formation d'un gouvernement de transition pour une durée de 12 mois. Le point sur la situation à Ouagadougou avec Maureen Grisot.
Les manifestants semblent être rentrés chez eux ce soir à Ouagadougou, mais beaucoup de pneus fument encore dans les rues de la capitale burkinabé. Il y a de nombreux pillards qui se sont déployés dans les rues de la ville. Alors, ce calme relatif est peut-être le signe que le couvre-feu décrété ce soir est en train de s'appliquer, mais l'opposition a demandé aux manifestants de continuer à occuper certaines places publiques, le signe de leur détermination à voir partir Blaise Compaoré. Il est vrai que le communiqué lu ce soir par l'état-major n'est pas très clair. Ce communiqué évoque la mise en place d'un organe de transition, ce qui semble pourtant acter la fin du pouvoir de Blaise Compaoré, mais les opposants, eux, parlent de coup d'état de salon et veulent que l'armée soit beaucoup plus claire sur leur volonté de voir partir le président burkinabé qui n'a pas encore réagi. Et selon l'opposition, eh bien, il n'y aura pas de retour au calme au Burkina Faso tant que Blaise Compaoré n'aura pas dit publiquement qu'il quitte le pouvoir.
Les manifestants ne veulent donc plus de Blaise Compaoré, devenu président en 87 lors d'un putsch marqué par l'assassinat de Thomas Sankara. Le régime est en bout de course, usé, et la contestation de plus en plus puissante. En voulant modifier la constitution pour se faire réélire, Blaise Compaoré a jeté des centaines de milliers de Burkinabés dans la rue. Analyse de François Soudan, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique.
Il y a ce problème de ce fameux article 37 de la constitution. Vous savez, Blaise Compaoré est au pouvoir depuis 27 ans. Normalement, il n'a plus droit de se représenter à la prochaine élection présidentielle, qui est l'année prochaine, en 2015, et il doit quitter le pouvoir au mois de novembre. Alors, il était en train de manœuvrer pour faire modifier la Constitution, afin de lui permettre de rempiler pour un, voire deux, voire trois autres mandats. Il faut savoir que le Burkina Faso, société burkinabé, est une société très politisée et qui est très peu marqué par les fracturations ethniques. Un pays donc où il y a facilement une tradition de revendication.
C'est un mouvement populaire ou un mouvement qui est organisé par l'opposition ?
Alors au départ, c'est un mouvement qui se voulait organisé par les cadres responsables de l'opposition, qui sont d'ailleurs pour la plupart issus du régime Compaoré, mais très largement aujourd'hui, c'est très clair, l'opposition et les chefs politiques ont été débordés par la rue. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu en Tunisie, en Égypte, au moment des printemps arabes. La foule a eu sa propre logique et un mouvement de foule très important qui allait vers les symboles du pouvoir.
Avec Bertrand Galichet, selon notre correspondante à Ouagadougou, Maureen Grisot, Blaise Compaoré vient de s'exprimer, le président Compaoré, il ne compte pas quitter le pouvoir. Retour en France avec l'Ecomove, 1 milliard d'euros, c'est ce que devra peut-être payer la France qui a annoncé aujourd'hui la résiliation du contrat avec cette société Ecomove, un consortium de 210 salariés installé à Metz qui devait gérer l'écotaxe censée s'appliquer au transport routier. L'écotaxe, qui avait provoqué la colère des bonnets rouges, avait été remplacée par un péage de transit poids lourd, lui-même abandonné il y a 3 semaines sous la pression des transporteurs routiers. Pour éviter de payer cette éventuelle indemnité, le gouvernement va contester juridiquement le contrat. François Desplan.
Oui, une longue bataille juridique va certainement s'ouvrir entre l'État et la société Ecomouv'. Le gouvernement qui a donc décidé d'accélérer les choses dans ce dossier parce que pour s'éviter en fait de nouvelles pénalités financières qui auraient pu s'ajouter à partir du 1er novembre. Mais aujourd'hui, l'État a des doutes sur la constitutionnalité d'un tel contrat. Voilà peut-être la faille juridique qui pourrait permettre à l'État d'échapper aux pénalités de remboursement. Pour l'instant, la société Ecomouv' a déjà dépensé dans ce projet près de 850 millions d'euros. Mais Ecomouv', c'est aussi et surtout 210 salariés, des salariés abattus. Ce soir, ils parlent d'un immense gâchis. Ils sont très remontés vis-à-vis de l'État qui les abandonne ce soir. Devant le ministère de l'écologie à Paris, Yvan Turc, François Desplan, France Inter.
Ecomouv', rappelons-le, est un consortium qui regroupe une entreprise italienne, la SNCF, Thales et SFR. Encore une histoire de péage routier controversée. À compter de 2016, l'Allemagne mettra en place une taxe pour les automobilistes étrangers qui empruntent les autoroutes du pays. La vignette prendra en compte la cylindrée et l'empreinte écologique des voitures et sera de 130 euros par an au maximum. Les étrangers pourront toutefois en acheter pour des durées de 10 jours ou 2 mois. Ce plan, destiné à financer les infrastructures routières, risque d'être contesté par Bruxelles pour discrimination envers les automobilistes étrangers. De nouvelles mesures pour simplifier la vie des Français et de leurs entreprises minées par la paperasserie et les tracasseries administratives. Carte vitale, passeport, paiement de la cantine, autant de démarches qui pourront à terme se faire en ligne. Autre mesure, François Hollande veut permettre de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à un mois avant un scrutin. C'est une bonne décision pour la démocratie, explique Céline Braconnier, chercheure et spécialiste du vote chez les jeunes.
Il y a un vrai problème dans notre procédure d'inscription sur les listes électorales et un des problèmes, c'est effectivement le calendrier, qui est un des plus contraignants du monde des démocraties occidentales, parce que jusque-là, la France est effectivement le seul pays où vous devez vous inscrire sur les listes plusieurs mois avant l'organisation du scrutin. C'est très très excluant pour les populations notamment qui ne s'intéressent pas trop au quotidien à la politique. Elles ne pensent pas à se réinscrire, elles ont du mal à comprendre ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et surtout, les campagnes électorales n'étant la plupart du temps pas commencées en décembre de l'année précédant une élection, elles passent à côté de cette date. Donc le fait de pouvoir rapprocher la date de clôture des listes du scrutin, ça signifierait qu'il serait possible de s'inscrire désormais alors qu'on est en pleine campagne électorale. Bien évidemment, c'est une amélioration notable, importante.
Propos recueillis au téléphone de Nasser Madji. Les autorités américaines ont tenté de faire arrêter Roman Polanski hier en Pologne. Entendu par un procureur, le réalisateur a finalement été remis en liberté. La traque dure maintenant depuis presque 40 ans. Les Américains le poursuivent pour une affaire de mœurs qui date de 1977. À Washington, Frédéric Carbone.
Pour le procureur de Los Angeles, Roman Polanski est un criminel qui n'a effectué que 42 jours de prison, qui a fui son procès et qui doit un jour être vraiment jugé et condamné. Il l'a dit clairement, après cet épisode suisse de 2009, « Je ne renoncerai pas, c'est une personne qui échappe à notre système judiciaire depuis plus de 30 ans, simplement parce qu'elle en a les moyens. » Le cinéaste ne peut donc pas ignorer que chacun de ses déplacements hors de France est périlleux. Il s'était déjà rendu en Pologne, mais très discrètement, il y a quelques années. Là, le survivant du ghetto de Cracovie, dont les parents sont morts à Auschwitz, était publiquement à l'inauguration de ce musée. La justice américaine n'a fait aucun commentaire sur cette nouvelle démarche. En 2009, des personnalités d'Hollywood, Martin Scorsese, David Lynch et le producteur Harvey Weinstein, avaient soutenu le cinéaste, mais l'opinion publique aux États-Unis partage largement l'idée que la justice doit être rendue. Quant à la victime, violée à l'âge de 13 ans, elle en a aujourd'hui 50, elle dit qu'elle veut oublier Polanski et qu'il ne devrait pas retourner en prison aussi longtemps après les faits. Washington, Frédéric Carbone, France Inter.
Israël a rouvert l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Le lieu, sacré, ultra sensible, avait été fermé après la mort d'un Palestinien tué aujourd'hui dans un échange de tirs avec des policiers israéliens venus l'arrêter pour son implication présumée dans une tentative d'assassinat contre une figure de l'extrême droite israélienne. C'était la première fois que l'esplanade était fermée depuis 1967 et l'annexion par Israël de la partie palestinienne de Jérusalem. Sébastien Lougini.
Les rues de la vieille ville quasiment désertes, du jamais vu depuis la deuxième intifada. Tous les commerces palestiniens ont tiré leurs rideaux aujourd'hui en signe de protestation contre la fermeture totale de l'esplanade des mosquées, une décision rarissime des autorités israéliennes qui choque profondément cette musulmane.
Moi je suis extrêmement outrée et touchée en tant que musulmane et citoyenne française de ne pas pouvoir me rendre au troisième lieu le plus saint pour le musulman. Nous sommes en colère, c'est notre lieu saint.
À quelques mètres de là, une poignée d'extrémistes juifs juifs tentent de pénétrer de force sur le mont du Temple, le nom que les juifs donnent à l'esplanade des mosquées, des manifestants qui revendiquent le droit d'y prier.
Je suis ici pour changer le statu quo et pour dire à Bibi Netanyahou qu'il doit récupérer notre propriété. C'est une guerre sainte.
Un peu plus loin encore, le quartier d'Abou Tor est en pleine ébullition, surveillé par des hélicoptères toute la journée. C'est là, dans ce quartier arabe, que le tireur suspecté a été tué ce matin par les forces spéciales israéliennes. Quelques jeunes affrontent la police à coups de pierres et de feux d'artifice, mais sans grande conviction.
C'était un bon quartier ici. Maintenant, ça va commencer. Qu'est-ce que peuvent faire des pierres face à des pistolets? Rien.
Demain, c'est jour de grande prière à l'esplanade des mosquées, l'esplanade qui sera rouverte. Malgré tout, le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, a appelé à un jour de colère et de manifestation. Jérusalem, Sébastien Logeni, France Inter.
Au Mexique, la découverte des cadavres de 3 frères et une sœur américains d'origine mexicaine. Ils ont été découverts dans le Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique. Ils avaient été enlevés il y a plus de 15 jours. La Russie, l'Ukraine, l'Union européenne sont parvenus ce soir à un accord en vue de la reprise des livraisons de gaz russe pour cet hiver. Les modalités de l'accord doivent être maintenant précisées par le président de la Commission européenne.
Laurence Thomas, Intersoir.
Un coup de maître pour une jeune étoile. Adrien Bosque, 28 ans, a été sacré par le Grand Prix du roman de l'Académie française pour son premier roman Constellation. Une captivante enquête sur le crash légendaire dans lequel est mort Marcel Cerdan. Et c'est une réflexion également sur le destin. Elana Morioussef.
Comme toujours, il y a ce petit moment de frisson quand la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, s'avance pour proclamer le nom du lauréat.
A décerné son Grand Prix du roman d'un montant de 7 500 € à M. Adrien Bosque pour son roman « Constellation ».
Adrien Bosque, 28 ans, récompensé pour son tout premier roman. Et à cet instant précis, il pense à son petit garçon, bien entendu, mais il pense aussi à un poème de Blaise Cendrars.
C'est un poème qui s'appelle « Tu es plus belle que le ciel et la terre » et qui dit « Le monde entier est toujours là ». La vie est pleine de choses surprenantes.
Constellation est une évocation du vol Paris-New York dans lequel a péri le boxeur Marcel Cerdan. C'était en octobre 1949, il rejoignait Édith Piaf. Mais dans son livre, c'est au destin des passagers anonymes de cet avion qu'Adrien Bosque s'est intéressé.
Je pense beaucoup aussi, aux différents passagers de cet avion, aux familles, et à ce que j'ai voulu rendre dans ce livre à travers ces portraits croisés.
À côté du lauréat, l'académicien Jean-Christophe Ruffin, visiblement enchanté.
C'est un des grands prix, on l'oublie parfois, mais c'est un des grands prix, c'est le premier. C'est un prix qui a une capacité de mobilisation des lecteurs très très forte, et des libraires aussi très forte. Et je suis persuadé que ça va être le cas ici, c'est-à-dire que... Il a parlé d'un avion, mais maintenant c'est une fusée.
Le livre d'Adrien Bosque a déjà séduit plusieurs éditeurs étrangers et les droits pour l'adaptation au cinéma sont en cours de négociation. À l'Académie française, Jean-Pierre Pernel, Ilana Morioussef, France Inter.
Tennis avec le Master 1000 de Paris-Bercy. Roger Federer qualifié pour les quarts de finale. Mais Joe Wilfried Tsonga tombe en 8e. Fabrice Abgral, vous suivez désormais ce soir la rencontre entre Monfils et Djokovic. Le Serbe a remporté le premier set.
C'est vrai, c'est mal parti pour Gaël Monfils, le dernier Français en lice, le dernier Français capable de jouer les quarts de finale. Mais pour cela, il faut quand même battre Novak Djokovic, qui n'est autre que le numéro 1 mondial. Et vous l'avez dit, en effet, Novak Djokovic a remporté le premier set sur le score de 6-3. Mais dans la deuxième manche, 5-4 en faveur de Gaël Monfils. Mais après le changement de côté, Djokovic va servir pour tenter de revenir à 5-1. Un Gaël Monfils surpris dès le début de la rencontre. Djokovic met beaucoup de pression. Il a pris d'entrée le service de Gaël Monfils. Et ensuite, le numéro 1 mondial s'est contenté de gérer son avance pour remporter la première manche en 36 minutes, très logiquement. Et puis maintenant, Gaël Monfils fait jeu égal véritablement avec le numéro 1 mondial, même si c'est compliqué quand même pour Gaël Monfils. Il suffit de se tourner vers les statistiques pour s'en apercevoir. Il faut savoir qu'en 10 confrontations, Gaël Monfils n'a jamais battu le numéro 1 mondial. Et il l'a même battu ici même, Novak Djokovic, Gaël Monfils. C'était en 2009 et tout simplement, en finale, Novak Djokovic l'avait emporté en 3-7, très serré. Et Gaël Monfils donc espère bien prendre sa revanche ici à Bercy. Le match a débuté il y a 1h08, premier set pour Djokovic, 5-4 pour Monfils dans la deuxième manche.
Merci Fabrice Abgral. Tout de suite le temps de ce vendredi avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de chaussettes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, cachemire. En direct sur bleuforêt.fr.
Octobre se termine en fanfare, dopé par le vent orienté au secteur sud et le soleil. Les températures de demain après-midi vont dépasser de 6 à 10 degrés les valeurs normales pour la période. Le maximum absolu sera pour le quart sud-ouest avec 27 à 30 degrés. Comptez sur 10 degrés de moins près de la Belgique et de l'Allemagne et entre 20 et 25 degrés sur les autres régions. Des températures exceptionnellement douce, conjuguée à un très bon ensoleillement. Il faut dire qu'en raison de l'air sec qui circule sur l'Hexagone, les brouillards et les nuages seront peu nombreux. On notera quand même un ciel un peu plus chargé dans le courant de l'après-midi autour du golfe du Lion.